avec des remerciements.
Et oui, les résultats Médiamétrie qui calculent les audiences radio viennent de tomber au niveau national. Vous êtes près de 2 800 000 à écouter France Bleu chaque jour. 45 000 nouveaux auditeurs nous ont rejoints ces 12 derniers mois. Belle progression pour le réseau auquel fait partie RCFM, première radio de Corse. On est heureux et fiers de ce résultat et de vous savoir à notre écoute tous les jours.
Autre fierté, la Corse qui devient ou qui est la terre du rugby.
Oui, après l'équipe d'Afrique du Sud, venue faire sa préparation dans l'île avant les championnats du monde, ce qui lui a d'ailleurs réussi puisqu'elle a remporté le titre. Ce sont deux équipes de rugby à 7 qui vont débarquer cet été en Corse pour préparer les JO. Il s'agit de l'équipe masculine des Samoa et l'équipe féminine des Fidji. Une réunion avait lieu hier à la Ligue Corse de rugby pour finaliser le séjour. Reportage Alexandre Sanguinetti.
La Corse, je pense que vous y serez très bien pour cette préparation des JO.
Jean-Simon Savé, les présidents de la Ligue Corse de rugby.
Les Fidjiens, les Fidjiennes à 15 à 7 sont pour moi, pour nous, de véritables équipes avec des valeurs qui sont ancrées comme des Iliens, des Iloises, comme la Corse, on va dire.
Lui veut développer le rugby en Corse.
Le Seven, encore une fois, est pour nous une nouvelle pratique de rugby que nous voulons développer et faire avancer.
Les Samoa, équipe masculine, seront chez nous début juillet, entre le 1er et le 18, date officielle de l'entrée au village olympique, tout comme les Fidji, féminines. Écoutez leur coach.
My name is Sayasi Fuli. I'm the head coach of our women's team. The collaboration and support that we can forge today.
La collaboration et le soutien que nous forgeons ici aujourd'hui peut aider notre équipe pour les Jeux Olympiques de Paris. Au-delà des grandes déclarations et de la philosophie, le concret, c'est l'affaire de Philippe Couchot de la Ligue Corse.
La seule chose, c'est que maintenant, moi, j'ai besoin d'avoir un programme assez précis de ce qu'ils veulent faire en termes d'entraînement, de musculation, de piscine, pour qu'on cale un programme par rapport à tout ça. Et aussi d'avoir des dates un peu plus précises, parce que là, pour l'instant, on est du 1 au 18. Je pense que ça va être avant, parce que le 18, c'est l'entrée au village olympique. Donc il faudrait qu'on ait des dates précises aussi pour les vols.
Même s'il reste donc quelques détails à régler, la Ligue Corse de rugby est en train de se faire une réputation internationale pour l'accueil des équipes professionnelles.
Le soulagement et l'amertume aussi de la défense d'Hélène Gerhardts.
Après 12 jours de prison pour 11 chefs d'inculpation, la magistrate en poste à Ajaccio de 2010 à 2016 est remise en liberté. Hélène Gerhardts est notamment soupçonnée d'avoir entretenu des liens avec un membre de la bande du Petit Bar. La chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné son placement sous contrôle judiciaire avec plusieurs restrictions, interdiction d'exercer, d'entrer en contact avec les protagonistes de l'affaire et de se rendre en Corse. Une décision saluée par son avocat, maître Yann Lebras.
Un immense soulagement parce que cela faisait 15 jours que nous vivions un cauchemar réveillé dans cette procédure. Nous sommes évidemment totalement soulagés par cette décision de remise en liberté. Et il faut quand même évoquer une pointe d'amertume parce que ce rouleau compresseur procédural qui est passé et qui a décidé dans un premier temps d'une mise en examen, d'un placement en détention, alors que d'autres solutions étaient possibles, le statut de témoin assisté, un contrôle judiciaire. Voilà, il y a une pointe d'amertume avec un immense gâchis, une magistrate travailleuse, dévouée, à qui peut-être on a fait un mauvais procès et qui s'est retrouvée pendant 12 jours incarcérée. Alors c'est un contrôle judiciaire qui est mesuré. On a des interdictions de contact, une interdiction d'exercer, une interdiction de se rendre en Corse. C'est à la fois strict et mesuré.
Et l'avocat général qui avait demandé le maintien en détention de la magistrate peut désormais se pourvoir en cassation.
Les suites de l'enquête sur ce présumé EHPAD non déclaré à Pantaigazinka.
Et le diacre qui s'en occupe, Pierre-Jean Frances, qui est toujours en garde à vue, une source proche de l'enquête, assure qu'il n'y a aucun soupçon de maltraitance. L'enquête porte sur l'aspect financier de l'affaire. Sur les réseaux sociaux, les messages de soutien au diacre se multiplient, chacun louant son humanité.
Le cardinal François-Xavier Boustille, lui, il était l'invité de Contraste hier soir.
L'émission mensuelle de Via Stella, en partenariat avec RCFM et Corse Matin, une confession d'une heure au cours de laquelle celui qui reste l'évêque de la Corse n'a éludé aucune question, que ce soit sur sa présence médiatique, ses prises de position personnelles, comme sur l'autonomie, ou sur les débats sociétaux, l'IVG ou encore la fin de vie. Sur ce dernier point, Mgr Bustillo se dit opposé en l'état au projet de loi du gouvernement qui sera soumis au Parlement à la fin mai.
Quand on touche à la vie, l'Église pense que nous ne sommes pas maîtres de tout. Il y a une dimension importante au début de la vie et à la fin de la vie que je crois qu'on est en train de sacrifier, c'est le domaine du mystère. On devient très technique, très médicaux, très scientifiques. Oui, mais est-ce que la solution à la souffrance, c'est de couper avec la vie? Est-ce qu'il n'y a pas de soins palliatifs? Est-ce qu'il n'y a pas de la compassion humaine? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres dimensions qu'on peut développer? Voilà, c'est un projet. Donc, on va voir finalement ce que le projet donne comme orientation de loi. On peut parler aussi avec nos élus. On n'impose pas notre pensée, mais on leur donne des arguments. C'est eux qui sont élus. Donc il faut respecter la démocratie. Moi, je regrette dans notre société que par rapport à des sujets délicats, douloureux et difficiles, on est dans le système Facebook. J'aime pas. C'est trop rapide. Et comme je disais tout à l'heure, il faut donner les éléments et les arguments. Autrement, on ne grandit pas. S'il n'y a pas de débat, on n'évolue pas.
Contraste avec Mgr Bustillo, émission rediffusée en intégralité ce soir à partir de 19h sur RCFM.
La commune de Vigenédo porte plainte contre le CIVADEC.
Une plainte contre le syndicat de valorisation des déchets pour une suspicion de dysfonctionnement concernant les installations de l'ancien centre d'enfouissement. Sur ce site qui a été fermé en 2021, deux bassins restent en place, l'un contenant les eaux de pluie, l'autre les lixivia. Ce sont des jus issus de la fermentation des déchets enfouis mêlés aux eaux pluviales. C'est ce dernier bassin qui aurait débordé, selon la plainte déposée par la municipalité le 9 avril, plainte qui ferait également état d'un tuyau se déversant, ce que conteste le CIVADEC. Il s'agirait d'un bout laissé par l'entreprise ayant effectué le curage du bassin des eaux depuis fin 2021. Une solution courante mais ponctuelle qui induit une réflexion à plus long terme pour le CIVADEC, explique sa directrice générale des services, Catherine Luciani.
Chaque année, pendant la saison des pluies, quand le niveau augmente dans le bassin de Lixivia, on fait ce qu'on appelle un traitement par osmose inverse. C'est-à-dire qu'on pompe de l'eau dans ce bassin, on la purifie, et la partie purifiée, nous avons l'autorisation de la rejeter dans l'environnement après contrôle, bien entendu, c'est de l'osmosée, lorsque donc les ruisseaux sont en eau, ce qui est le cas à la saison des pluies. C'est une solution, en fait, qui est une solution d'entretien courant qu'on met chaque année, mais qui n'est pas une solution définitive de vidage du bassin de Lixivia. Maintenant que le site est fermé depuis 3 ans, nous envisageons effectivement une solution de vidage qui sera différente, puisque là, on pompera la totalité du bassin pour la faire traiter à l'extérieur du site, et ensuite pour mettre en place une solution un petit peu plus pérenne pour limiter la réception des eaux de pluie dans ce bassin qui nous crée en fait des nécessités de traitement importantes chaque année.
Et la municipalité n'a pas souhaité communiquer. Une enquête est menée par la gendarmerie. Deux petits mots de volley avec le GFCA qui s'est incliné hier soir au Palatine ou face à Cannes en match aller de la finale des playoffs. Défaite 3-7 à 1. Les Ajacciens avaient donné du fil à retordre à cette équipe azuréenne qui a été plus réaliste. Le Gazalec ira dimanche à Cannes pour tenter l'exploit, obtenir sa qualification lors du match retour.